Vous écoutez, on lit pour vous.
Des hypothèses pour expliquer la hausse des cas de cancer. Un texte de Judith Lachapelle, paru le 16 novembre 2024 dans La Presse. La publication de notre dossier « Pourquoi tant de cancers chez les quarantenaires ?» a engendré un volumineux courrier. Plusieurs de nos lecteurs ont émis des hypothèses pour expliquer la hausse des cancers chez les jeunes adultes. Qu'en dit la science? Nous en avons discuté avec le professeur Boran Anabi, professeur de biochimie à l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche sur la prévention et le traitement du cancer. Plusieurs lecteurs nous ont soumis des hypothèses et se demande si elle pourrait expliquer la hausse des cas de cancer chez les jeunes adultes. Parmi elles, les pesticides, les OGM, les ondes cellulaires, les additifs alimentaires. En dehors des facteurs de risque les plus souvent cités, comme le tabagisme et l'obésité, y a-t-il de la recherche qui se fait sur ces autres causes potentielles? Bien sûr qu'il y a de la recherche sur ces hypothèses, dit le chercheur Boran Anabi. Mais jusqu'ici, les preuves de l'effet cancérigène de la consommation d'aliments génétiquement modifiés ou de l'exposition aux ondes cellulaires ne sont pas suffisantes pour tracer une corrélation avec la hausse des cas de cancer. Ça semble imprégné dans l'imaginaire des gens, constate le chercheur, qui se désole que des facteurs de risque reconnus, comme la consommation excessive d'aliments transformés, le manque d'activité physique ou encore le manque de sommeil, ne fassent pas l'objet d'une plus grande attention pour prévenir le cancer. Prenons par exemple l'utilisation croissante des pesticides dans les 50 dernières années, une hypothèse mentionnée par de nombreux lecteurs. N'est-ce pas une cause de cancer? La science a démontré le danger que représente l'exposition aux pesticides pour les agriculteurs qui les manipulent, dit M. Anabi. Mais pour ce qui est de la consommation des aliments cultivés à l'aide des pesticides, la corrélation avec le cancer est moins évidente. En fin de compte, une fois qu'on reçoit ces aliments et qu'on les lave, les doses consommées ne sont pas suffisantes pour s'accumuler dans l'organisme avant qu'elles ne soient détoxifiées par le corps, dit Boran Anabi. Par contre, ce qui a été prouvé, c'est que la consommation de végétaux est toujours supérieure à l'effet délétère potentiel des pesticides, rappelle M. Anabi. Une alimentation pauvre en fibres et riche en viande rouge et transformée, comme les charcuteries, est un facteur de risque des cancers gastro-intestinaux. Personnellement, j'ai beaucoup plus peur de ne pas consommer suffisamment d'aliments végétaux que d'avoir consommé les traces de pesticides dans ces végétaux. Les effets bénéfiques sont beaucoup plus élevés que les effets néfastes. Qu'en est-il des colorants alimentaires et autres additifs qu'on retrouve dans les aliments transformés? Des études émergent ponctuellement concernant la toxicité de certains additifs alimentaires. La façon d'interpréter les résultats est différente d'un pays à l'autre. Par exemple, le dioxyde de titane, qui sert de colorant, est interdit dans l'Union européenne, mais permis au Canada. Certaines molécules des additifs alimentaires sont capables de traduire des mécanismes cancérigènes, dit Boran Anabi. Mais est-ce vraiment l'additif qui cause le cancer? Ou plutôt la consommation excessive, dans notre jeune âge, d'aliments transformés qui contiennent ces additifs? Pour moi, c'est la réflexion qu'on doit avoir. Un autre des éléments qui a changé depuis 3 décennies, c'est l'utilisation des téléphones cellulaires et des réseaux sans fil, Wi-Fi. Y a-t-il une piste à explorer? Oui, mais ce n'est peut-être pas celle proposée par les lecteurs qui ont soulevé cette hypothèse. Plusieurs lecteurs disent s'inquiéter de l'exposition aux ondes émises par ces appareils. Jusqu'ici, le consensus scientifique international est qu'il n'y a pas assez de données probantes pour confirmer le potentiel cancérigène de cette exposition. Ces ondes non ionisantes sont très différentes des ondes ionisantes utilisées lors d'une radiographie, rappelle M. Annaby. Les rayons ionisants brisent l'ADN. C'est pour cette raison qu'on doit limiter notre exposition. Les ondes cellulaires n'ont aucun impact ionisant. Par contre, il est indéniable que l'omniprésence des téléphones, tablettes et ordinateurs branchés sur l'Internet a eu un impact sur la santé de la population, dit Boran Annaby. Et c'est au-delà des rayons ionisants ou non ionisants, dit le chercheur. C'est la qualité de notre sommeil qui est affectée. Le sommeil régénère le système immunitaire, ce qui lui permet de mieux repérer les cellules détraquées qui causent le cancer et de s'attaquer à elles. Et ce qui a perturbé notre sommeil depuis 20 ans, c'est l'émergence des technologies. Moi-même, je l'admets, je prends mes courriels avant d'aller me coucher. Lisez notre dossier « Pourquoi tant de cancers chez les quarantenaires ?» Et les vaccins contre la COVID-19? Avez-vous pensé aux vaccins ARNm? Nous ont écrit certains lecteurs en référence à cette technologie utilisée pour mettre au point les vaccins contre la COVID-19. La hausse des cancers chez les adultes de moins de 50 ans a été observée bien avant les années 2020-2021, lorsque les vaccins ARNm ont été administrés à grande échelle. Une étude publiée dans la revue scientifique JAMA en 2023 a confirmé l'augmentation entre les années 2010 et 2019 aux États-Unis, particulièrement pour les cancers du sein et gastro-intestinaux. Dans le British Medical Journal, toujours en 2023, une étude a évalué qu'entre 1990 et 2019, l'incidence de cancer chez les moins de 50 ans avait augmenté de 80 % dans le monde. C'était des hypothèses pour expliquer la hausse des cas de cancer. Un texte de Judith Lachapelle paru le 16 novembre 2024 dans La Presse.
Un autre virus dont il faut s'inquiéter? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 11 novembre 2024 dans La Presse. Redouté des éleveurs de volailles, la grippe aviaire a de quoi donner des frissons. Mais doit-on craindre une transmission du virus chez l'humain après un cas suspect signalé samedi le 9 novembre en Colombie-Britannique? La Presse fait le point avec trois experts. Qu'est-ce que ce virus? La grippe aviaire est une infection virale contagieuse qui touche principalement les oiseaux, sauvages ou d'élevage, mais qui peut, dans de rares cas, infecter l'humain. Il existe plusieurs souches du virus de la grippe aviaire, dont la souche H5N1. C'est cette même souche qui avait entraîné la mort de centaines de personnes à travers le monde au début des années 2000. Bien que le nombre d'infections ait certainement été sous-estimé, environ la moitié des personnes infectées en sont mortes. Mais le virus a muté depuis 20 ans. Et aujourd'hui, sur les quelques cas humains récemment détectés dans le monde, il ne semble pas y avoir trop de mortalité, avance le docteur Denis Archambault, médecin vétérinaire et chercheur en immunologie et en virologie à l'Université du Québec à Montréal. En chiffres. Source, Santé Canada, données mises à jour le 10 octobre 2024. Depuis 1997, 926 cas humains de H5N1 ont été signalés dans le monde avec un taux de létalité de 51%. En 2014, le Canada a signalé en Alberta un seul cas mortel lié au virus H5N1 chez un résident revenant d'un voyage en Chine. En 2024, on a détecté 26 cas humains de grippe aviaire H5N1 dans le monde, dont la moitié aux États-Unis. Y a-t-il des cas en Amérique du Nord? Les personnes à risque de contracter le virus de la grippe aviaire sont celles qui travaillent directement au contact d'animaux d'élevage. Parmi les différents symptômes de la maladie, on retrouve notamment une conjonctivite ou des symptômes rappelant la grippe. S'il est confirmé, le cas de la Colombie-Britannique serait le premier cas humain de H5N1 détecté sur le sol canadien à avoir été contracté au Canada. Des cas humains ont également été rapportés aux États-Unis, mais cela reste sporadique. Cependant, il n'est pas rare que des cas soient signalés chez les animaux. Il y a actuellement 25 foyers actifs à travers le Canada dans des élevages de volailles, mais aucun au Québec. La situation est moins inquiétante qu'en 2022 ou 2023, où on a eu plusieurs cas au Québec, souligne Martin Pelletier, directeur de l'équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles. Le virus peut-il s'attraper ou se transmettre facilement? Il y a eu plusieurs centaines de foyers jusqu'à maintenant au Canada chez des animaux, et là, on a le premier cas humain. Si ça se transmettait facilement à l'humain, on le saurait, soutient le docteur Jean-Pierre Vaillancourt, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Et bien que certains cas aient soulevé des doutes, il n'y a pas encore eu de preuves avérées de transmission d'humain à humain. Pour ce qui est de la consommation de volailles ou d'œufs, il ne faut pas paniquer avec ça, soutient le docteur Jean-Pierre Vaillancourt. Puisqu'ils sont cuits avant d'être consommés, les produits issus de la volaille ne sont pas un risque pour l'humain, ajoute le docteur Vaillancourt. Il n'existe aucun traitement contre la maladie chez les oiseaux. Lorsque des cas sont détectés dans un élevage, les animaux infectés sont abattus, ainsi que les animaux avec qui ils ont pu être en contact pour éviter que la maladie ne se propage. Existe-t-il un vaccin? Présentement, il n'existe pas, approuvé au Canada, de vaccin pour l'humain qui protégerait contre cette maladie. Et le vaccin actuel contre la grippe ne protège pas contre la grippe aviaire, précise le docteur Denis Archambault. En revanche, début septembre 2024, une équipe de chercheurs canadiens et français, dont il fait partie, a publié dans le journal NPG Vaccines Nature une étude proposant un nouveau vaccin contre la souche H5N1 chez le poulet. Reste à voir si ce nouveau vaccin sera approuvé et s'il peut être adapté pour l'humain. C'est ce qu'on espère, avance prudemment le docteur Archambault. Et à l'avenir, la grippe aviaire est connue et surveillée depuis maintenant des décennies. Mais avec les changements climatiques, les mouvements migratoires des oiseaux changent et des populations qui n'étaient pas en contact auparavant le deviennent, ce qui favorise la transmission de maladies. Et ce virus a la particularité, comme le coronavirus à l'origine de la COVID-19, de faire des erreurs lorsqu'il se réplique, ce qui fait qu'il peut muter assez rapidement. Sans être alarmiste, il faut rester aux aguets, souligne le docteur Denis Archambault. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y ait une transmission d'humain à humain, croit-il. Et s'il développe la même virulence que ce qu'on avait dans les années 1990, on va s'ennuyer de la COVID. La probabilité que ça arrive est très faible, mais elle n'est pas nulle, ajoute le docteur Jean-Pierre Vaillancourt. C'était Un autre virus dont il faut s'inquiéter, un texte de Chloé Bourquin, paru le 11 novembre 2024 dans La Presse.
les plantes vertes contribuent à votre santé. Un texte commandité paru le 11 novembre 2024 dans La Presse. Les plantes d'intérieur mettent, littéralement, de la vie dans votre décor. Mais au-delà de leurs vertus esthétiques, elles présentent aussi une panoplie de bienfaits pour la santé scientifiquement prouvés. Voici ce que différentes études ont permis de découvrir. Elles atténuent le stress. La quiétude ressentie après avoir joué dans la terre est bien documentée. Les participantes et les participants d'une étude se sont vus confier deux tâches simples, transférer une plante verte dans un nouveau pot ou réaliser un court travail à l'ordinateur. Leur fréquence cardiaque et leur pression sanguine étaient mesurées après chaque intervention afin d'évaluer leur degré de stress. Conclusion, les gens ressentaient du calme et de la détente au terme du jardinage, mais une hausse marquée de leur activité nerveuse après avoir été exposés à un écran. Elles stimulent la concentration. Les plantes vertes pourraient-elles contribuer à la réussite scolaire? Lors d'une étude, 23 élèves du primaire, à tour de rôle, ont passé un moment dans une salle de cours comprenant soit une plante naturelle, une plante artificielle, une photo de plante ou aucune plante. L'analyse d'imagerie cérébrale a démontré que les enfants se retrouvant en face d'une plante véritable présentaient une meilleure concentration et une plus grande capacité d'attention que leurs camarades. Elles accélèrent la guérison naturelle. Offrir des fleurs à une personne hospitalisée est non seulement une belle marque d'attention, mais pourrait l'aider à retourner à la maison plus tôt. Lors d'une étude réalisée dans un hôpital de Corée du Sud, 80 patientes ayant subi une même intervention chirurgicale ont été transportées dans une chambre avec ou sans fleurs et plantes d'intérieur. Les personnes entourées de verdure ont utilisé moins de médicaments contre la douleur et ont obtenu leur congé plus rapidement. Elles augmentent la productivité. Un rhododendron pourrait bien être le collègue de travail idéal. Lors d'une expérience menée dans un laboratoire informatique de l'Université de l'État de Washington, l'ajout de plantes à l'environnement a permis à des étudiantes et étudiants d'accomplir un même travail environ 12 % plus rapidement. Une étude transversale effectuée auprès de 385 personnes en Norvège a, quant à elle, établi une corrélation positive entre le nombre de plantes dans l'espace de travail des gens, leur productivité et le nombre de congés de maladie pris. Elle contribue au maintien d'un taux d'humidité confortable. Activé au retour du temps froid, le chauffage électrique assèche l'air et aggrave des problèmes de santé mineurs tels que les maux de gorge et les irritations cutanées. Les plantes d'intérieur aident à contrer ce problème grâce à la transpiration végétale, un processus faisant l'effet d'un humidificateur naturel. Une expérience menée dans des bureaux en Australie a établi que l'humidité relative médiane s'élevait à 29 % en l'absence de plantes, à près de 39 % avec 5 plantes et à 49 % avec 18 plantes. Elles purifient l'air. Dès la fin des années 1980, la NASA s'est intéressée à la capacité des plantes de filtrer le dioxyde de carbone, la poussière, les composés volatiles organiques, CVO, les virus et les bactéries en suspension. Depuis, l'analyse d'une cinquantaine de variétés de plantes a permis d'identifier les plus efficaces pour assainir l'air ambiant, soit le palmier areca, le palmier rapis excelsa, le palmier bambou, le figuier à caoutchouc et le daragonnier. Elles aident à affronter les grandes épreuves. Pendant le confinement, des gens de partout dans le monde ont découvert les bienfaits thérapeutiques du jardinage. En Bulgarie, un sondage réalisé auprès de 323 étudiantes et étudiants universitaires a révélé que ceux et celles possédant des plantes d'intérieur ou ayant accès à un jardin ressentaient moins de symptômes d'anxiété et de dépression. Même face aux grandes crises, avoir le pouce vert aide à chasser les bleus. C'était « Comment les plantes vertes contribuent à votre santé ?» un texte commandité paru le 11 novembre 2024 dans La Presse.
Le milieu communautaire du Nunavut réclame un meilleur financement, un texte de Karine Lavoie, paru le 6 novembre 2024 dans le Nunavoie. L'Association des organismes sans but lucratif du Nunavut, NANPO, a acheminé le mois dernier une lettre ouverte au gouvernement du Nunavut pour lui faire part de ses préoccupations et de ses recommandations en vue du budget territorial 2025-2026. Un total de 27 organisations à but non lucratif du territoire se sont jointes au mouvement. La lettre ouverte de la NANPO dévoile que le mandat Katujiluta de 2022 promettait de promouvoir et de fournir un financement de base à long terme pour soutenir et élargir les modèles efficaces de programmes et de services communautaires, ce qui n'a toujours pas été réalisé à ce jour, selon l'association. Sous la forme de 4 recommandations, les organismes à but non lucratif qui opèrent dans les 25 communautés du territoire revendiquent un soutien correspondant au rôle qu'ils sont appelés à jouer pour le bien-être économique, culturel et social. Un financement pluriannuel demandé. Jessie Hale, directrice générale de la NANPO, reconnaît que le gouvernement du Nunavut est conscient de la valeur des organismes sans but lucratif et qu'il a une volonté sincère d'offrir un soutien à long terme aux programmes et aux services communautaires. Elle considère qu'il est dans l'intérêt du gouvernement de traiter les organismes sans but lucratif comme des partenaires de confiance. Une partie de ce que nous espérons voir par cette lettre est une communication accrue du gouvernement avec notre secteur afin de nous tenir au courant des mesures qu'ils prennent à l'interne pour travailler à la priorité du financement de base dans le mandat de Katujiluta, déclare la directrice. D'après elle, à l'heure actuelle, les organismes sans but lucratif du territoire sont encore aux prises avec un financement incohérent et inflexible. Nous savons que le gouvernement est conscient de cela et qu'il s'agit d'un problème et nous voulons maintenant voir des mesures concrètes sur la façon dont il va y remédier. Mieux encore, nous aimerions collaborer et élaborer un plan ensemble, indique Jessie Hale. L'urgence actuelle pour les diverses organisations est d'obtenir un financement pluriannuel alors que présentement, de nombreux programmes existants depuis plusieurs années doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de financement chaque année, et ce, sans garantie qu'ils soient retenus. Cela crée tellement de stress et utilise du temps administratif qui pourrait être consacré au service de la communauté. Les membres de la communauté en sont venus à compter sur ces programmes et les organismes qui les offrent, et lorsqu'il n'y a que suffisamment de financement pour un exercice financier à la fois, il y a une réelle inquiétude que les organismes ne soient pas en mesure de survivre à long terme, dit Jessie Hale, directrice générale de la NANPO. Le ministère des Services à la Famille fournit un financement de base pluriannuel aux organismes alimentaires communautaires, aux refuges et aux partenaires dans le cadre de ses programmes de défense des intérêts sociaux. Un financement de base est offert au Centre communautaire d'alimentation Kadjouk-Tourvik, à la société Ukuutak, à la société Ablukta, à la société Kataoujak, au YWCA Agvik Nunavut, à la Kitikmeot Friendship Society, à la Nunavut Disabilities Makinaswaktit Society, à Pairijit Digumiak Tikut, à Ilizak Civic et au Kulik Status of Women. Un financement de base est également fourni à un certain nombre de hameaux qui exploitent des refuges et des initiatives de sécurité alimentaire. Ayant obtenu la confirmation de la réception de la lettre et une réponse à venir par le bureau du Premier ministre, Jesse Hill se dit prudemment optimiste. Lorsque je parle aux gens du gouvernement, ils sont très réceptifs à l'idée que la relation de financement doit être améliorée. Le programme de réduction de la pauvreté du ministère des Services à la Famille, en particulier, a fait un excellent travail au cours des dernières années pour reconnaître la valeur des organismes sans but lucratif et défendre nos besoins, soulève-t-elle. La femme souhaite maintenant que des conversations aient lieu au cours de la prochaine séance de l'Assemblée législative et que le gouvernement s'efforce de travailler à l'élaboration d'un plan visant à mettre en œuvre certaines des recommandations dans le prochain budget. La volonté d'agir du gouvernement. En 2021, la division de la réduction de la pauvreté du ministère des Services à la Famille a mené une recherche sur la contribution et l'impact économique des organismes sans but lucratif au Nunavut. La recherche comprenait, entre autres, des recommandations sur les façons de renforcer le soutien aux organismes sans but lucratif et la reconnaissance de leurs contributions économiques. La division de la réduction de la pauvreté souhaite maintenant mobiliser les ministères identifiés pour plaider en faveur de l'amélioration des services et du soutien pour les organismes sans but lucratif. Le ministère des Services à la Famille reconnaît que les solutions communautaires auront le plus grand impact sur la réduction de la pauvreté. Une partie de notre travail est donc axée sur le renforcement de la capacité des organismes communautaires à élaborer et à mettre en œuvre des programmes, explique Alexis Amores, coordonnateur des communications pour la division des politiques et de la planification au ministère des Services à la Famille du Nunavut. De son côté, le ministère de la Santé fournit également un financement de base aux collectivités du Nunavut pour soutenir un éventail d'initiatives telles que des programmes de nutrition et des programmes de santé mentale et de bien-être. C'était « Le milieu communautaire du Nunavut réclame un meilleur financement », un texte de Karine Lavoie, paru le 6 novembre 2024 dans « Le Nunavoie ».